Bonjour à tous. L'intérêt pour le jeu ne cesse de croître. On veut utiliser du jeu pour tout et partout. Mais en parallèle, des recherches sont menées pour justement étudier les meilleures façons d'utiliser le jeu à des fins autres que de divertir. Dans cet épisode d'Homo Ludens, Julian Alvarez est mon invité pour en parler. Bonne écoute. Bonjour Julian Alvarez.
Bonjour. Bonjour Mathieu.
Tu es enseignant-chercheur à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France et à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Lille. Tes recherches portent sur l'utilisation du jeu dans différents domaines, comme la formation, la santé ou encore le marketing. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de la recherche sur le jeu ?
Alors, de manière très simple, l'origine vient sans doute de l'enfance. C'est-à-dire que j'ai eu, durant mon enfance, la chance, ou du moins j'ai eu l'opportunité de vivre une expérience qui est peut-être assez atypique, c'est-à-dire que j'ai, durant ma petite enfance, connu le régime de Franco en Espagne et la manière dont on faisait à l'époque l'équivalent de la crèche, de la garderie. Donc, à cette époque-là, quand j'avais 3-4 ans, j'ai le souvenir de longues siestes obligatoires et des jouets qui étaient essentiellement mis dans des placards qu'on pouvait regarder, mais c'était quelque chose de rare et auquel on n'avait pas facilement accès. Puis ensuite, je suis allé en Suède où j'ai vécu une autre expérience qui ressemblerait peut-être à l'école maternelle, mais là, ça se passe dans une maison. Et dans cette maison, en fait, on a les différentes pièces qui correspondent à des lieux d'apprentissage différents. Donc, on nous amène par exemple dans la cuisine et là, on peut faire des expérimentations comme de la peinture ou faire des recettes de cuisine, évidemment, faire un petit peu de chimie ou de la physique, bon, ce qui est à la portée d'un enfant de 4 à 6 ans, hein, de manière assez simple, mais qui permet déjà de découvrir des choses. D'autres pièces étaient dédiées à du spectacle, par exemple le salon où on avait un piano, on pouvait faire des répétitions, faire un peu de théâtre. La chambre à coucher était un lieu où on avait évidemment des jouets, et on avait aussi la possibilité de dormir si on le souhaitait. Et puis enfin, on avait aussi le coin télévision-bibliothèque, où on pouvait regarder des documentaires, consulter des livres, et dans lequel on faisait parfois des débats. Donc on voit que chaque lieu de la maison était dédié à un apprentissage dédié. Ensuite, j'ai connu la maternelle en France, donc en grande section. Et là, j'ai été frappé par le fait que les apprentissages passaient beaucoup par des interdits, par un cadre qui était très très formel, très autoritaire. C'est-à-dire que je m'en souviendrai toujours, il fallait rester assis dans une classe avec des consignes très très marquées, n'écrivez pas dans la marge, n'écrivez qu'en noir, on écoute la maîtresse, on lève le doigt pour prendre la parole, voilà. Donc c'est vraiment très policé, très voilà, très dirigiste comme approche, je trouvais, où je venais de voir la Suède, où là, on avait vraiment une approche qui était très basée sur la confiance, le développement de l'enfant, c'était très, très épanouissant. Et là, au contraire, j'avais l'impression de me retrouver quelque part dans une expédition un peu punitive, sans avoir rien fait, on est déjà dans une approche assez coercitive. Et puis l'approche espagnole, elle, m'avait marqué par le fait que là, il n'y avait pas du tout la recherche en développement quelconque, hein, puisque c'était sieste, après sieste. Donc, dans ce contexte-là, je suis arrivé en France, et puis après, j'ai vécu en France, avec l'idée que ce que j'avais vu en Suède me paraissait être beaucoup plus avant-gardiste que ce qui se faisait en France ou en Espagne. Donc, je répète, c'était les années 70. Hein. Je voudrais pas que l'auditeur pense que je parle de notre époque actuelle. Et Et durant cette phase où j'avais l'impression qu'on pouvait faire des choses qui étaient peut-être mieux, il y avait notamment l'approche par le jeu que j'avais moi pu éprouver en Suède, puisque dans les chambres, on avait accès à des jouets. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui nous encadraient nous observaient, regardaient comment on jouait, et ça pouvait être de manière fortuite l'occasion de nous enseigner des choses. Alors, on était dans ce qu'on appelle une approche informelle, en situation informelle, c'est-à-dire que on n'était pas là pour apprendre quelque chose de précis en Suède, hein, dans le cadre de cette expérience que je vous relate. On était là pour être gardé avant tout, mais de manière intelligente, pas juste faire office de garderie ou sieste cumulée. Donc c'est vrai que quand je parle de la maternelle ensuite, il y a l'idée de nous inscrire en situation formelle, c'est-à-dire avec l'idée de nous apprendre quelque chose de précis à la sortie. Et donc c'est vrai que du coup ça change un petit peu la donne, puisque les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Néanmoins, l'idée d'avoir ce jeu, d'avoir une approche plus ouverte, de considérer l'espace comme lieu d'apprentissage, m'a toujours paru être une bonne idée, et c'est peut-être pour ça que étudier le jeu aujourd'hui me semble important pour ramener peut-être ces principes que j'ai vus en étant tout petit.
Alors aujourd'hui, le jeu, il est très courant. On parle beaucoup de serious game, de gamification, de ludification. On veut mettre du jeu un petit peu partout. D'où vient, selon toi, cet intérêt pour le jeu ?
Alors, il y a plusieurs courants, plusieurs sources explicatives. D'abord, on a le développement de courants culturels qui nous amènent aujourd'hui à identifier ce qu'on appelle les geeks en général, qui ont baigné dans des films de science-fiction qui sont apparus dès les années 50, dans les comics avec les super-héros qui sont apparus dès les années 30 et qui se poursuivent à nos jours. On a eu aussi la Deuxième Guerre mondiale avec la culture américaine qui s'est propagé peut-être de manière plus forte en Europe durant les Trente Glorieuses, et qui nous ont amené ces éléments, les super-héros, les films, la culture hollywoodienne, etc. Bon, il y a ce courant-là. Et puis, dans les années 70, ça a été le tour du jeu vidéo, c'est-à-dire avec l'arrivée de Pong, qui nous vient des États-Unis, avec ensuite d'autres jeux, le casse-briques, les consoles de salons qui sont apparus dès 1972, si on pense à la Magnavox d'Odyssée, qui était aussi d'origine états-unienne. Et puis après, c'est entremêlé la culture japonaise, puisque à la fin des années 70, on voit Space Invaders notamment débarquer, puis Pac-Man au début des années 80, et puis tout un ensemble de choses formidables comme Donkey Kong, et puis la NES, etc. Donc on a tout un ensemble d'éléments qui nous font goûter le plaisir de cette culture populaire véhiculée par la bande dessinée, par les films, par le jeu vidéo. Et en parallèle, on a peut-être une société qui est de plus en plus difficile à interpréter aujourd'hui, puisqu'on est dans une phase de mutation, de transformation. On est dans une ère mondialisée, avec un contexte qui n'est pas forcément très gai, qui est celui d'un réchauffement climatique qui nous met un petit peu dans des dispositions qui sont moins insouciant qu'à une certaine époque. Et donc, dans ces climats de récession économique ou de difficultés économiques, avec toujours des contextes peut-être catastrophiques qui se profilent, plus le climat d'attentat, on a besoin de se réfugier dans des choses qui sont plus optimistes. Et c'est vrai que dans ces cas-là, quand on est un petit peu dans la peur du lendemain, se réfugier dans les valeurs du passé peuvent être un schéma qui sont adoptés par des personnes. Et dans ces schémas, dans ce refuge du passé, on va retrouver le plaisir du jeu, on va retrouver peut-être le plaisir de cette insouciance donnée par les comics, par les films de science-fiction, par tout ce qui a une certaine, certain pouvoir distracteur, on va dire. Et donc ça peut être une première source explicative. Ensuite, une deuxième source explicative, c'est dans le contexte de l'école, de plus en plus d'enseignants font le constat que les apprenants sont en train de changer, ils veulent plus de réponses, ils veulent avoir la possibilité de comprendre le pourquoi des choses, ils veulent, à mon avis aussi, plus d'interactivité, qu'on leur donne plus de place. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, on est baigné de plus en plus dans les outils du numérique qui nous invitent à interagir. Et là, on arrive dans l'école, pourquoi là, tout d'un coup, tout devrait s'arrêter? Donc là, il y a quelque chose qui peut paraître illogique pour certains apprenants. Et donc, on a une appétence pour tout ce qui va nous amener à interagir. Et le jeu est précisément une activité qui nous permet d'interagir, de faire des interactions sociales, d'atteindre des objectifs qui peuvent être divertissants, et donc nous amener finalement dans une certaine situation qui peut être plaisante pour certains profils d'apprenants.
Est-ce que, du coup, tu as participé à la création du diplôme inter-université Apprendre par le jeu. Mm-hmm. Est-ce que ce diplôme répond à une demande que tu as relevée par rapport à notamment cette deuxième, ce deuxième constat que tu nous as décrit juste avant?
Oui, de manière très simple, c'est-à-dire que c'est vrai que l'objet de recherche sur lequel je travaille depuis le milieu des années 2000, c'est le serious game, c'est-à-dire la possibilité d'instrumentaliser le jeu pour faire autre chose que simplement se divertir, essayer de faire cette jonction entre la situation formelle qu'on a évoquée tout à l'heure et le plaisir de pouvoir jouer pour atteindre ses objectifs formels, de pouvoir nous inscrire finalement dans une certaine forme de prise de position, de pouvoir être force de proposition. Et donc le jeu, puisqu'il faut faire des initiatives, prendre des initiatives, pour moi correspond à quelque chose qui me paraît intéressant à étudier. Et donc évidemment, dans le contexte actuel, plein d'autres acteurs s'intéressent à l'utilisation du jeu, que ce soit dans le domaine de la santé, de la publicité, de la formation, de la défense, de la culture. Et donc, on avait des demandes qui se multipliaient, de personnes qui nous demandaient « Bon, très bien, vous avez écrit des articles sur le sujet, mais est-ce qu'il existe des formations? Où c'est qu'on peut se former? Où c'est qu'on peut aller plus loin sur ces sujets, etc. ?» Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir le CRI, Antoine Tally et Frédéric Deléage, qui m'ont contacté pour savoir si ça m'intéresserait de construire cette aventure avec eux, à savoir de mettre en place un diplôme interuniversitaire pour justement proposer des cours en lien avec le Serious Game, d'une part, c'est-à-dire utiliser le jeu à des fins utilitaires, et puis aussi de détourner des jeux existants pour en faire des usages qui s'écartent de ce que les concepteurs initiaux avaient prévu, c'est-à-dire simplement se divertir, mais pourquoi pas percevoir des messages qui peuvent être intéressants, constructifs, s'entraîner, ou bien collecter des données.
Donc ça, c'est les trois fonctions utilitaires du Serious Game, c'est ça?
Tout à fait. Et puis ce qu'on peut compléter aussi, c'est que les publics le public qu'on a dans le cadre du DIU est un public finalement assez âgé. C'est pas forcément de la formation initiale. On est dans la formation continue. Ce sont des personnes qui ont entre 30 et 50 ans, et qui donc sont déjà dans une expérience professionnelle pour la plupart, mais qui viennent vraiment de milieux très différents. On a des personnes qui viennent du monde de l'éducation, évidemment, des enseignants et des enseignantes qui veulent pouvoir utiliser le jeu en classe, mais aussi des personnes qui montent leur société, des créateurs d'entreprises, des créateurs de start-up, des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, des pédiatres, des personnes qui forment également dans le milieu de la santé, comme des sages-femmes ou des infirmiers, ou des infirmières. Et puis après, on a aussi des personnes qui travaillent dans le milieu de l'administration, des personnes qui travaillent aussi dans la mise en place de formations. Et tout ça montre une certaine richesse dans la mesure où c'est pas juste un domaine d'activité qui pourrait être celui de l'éducation qui s'intéresse au jeu, mais on voit que ça touche plusieurs pans, plusieurs marchés de notre société actuelle.
Et dans le cadre des activités d'enseignement que tu donnes, quelles sont les notions essentielles avec lesquelles tu veux que repartent tes étudiants ?
Alors, de manière très simple, c'est la première question qu'on se pose, c'est la place du jeu finalement dans toutes ces approches utilitaires. C'est-à-dire, la question qui est récurrente, c'est le jeu jusqu'où et comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit utiliser le jeu juste pour faire office de carotte, de levier motivationnel ? Ou est-ce que vraiment on peut apprendre, comme le dirait Yvan Hochet, apprendre par le jeu? C'est-à-dire que Yvan Hochet fait une nuance entre apprendre avec, qui est l'idée de dire je brandis le jeu comme étant un élément qui va attirer le chaland pour ensuite le faire basculer dans la partie éducative. Ou alors, est-ce que c'est vraiment le jeu qui sert de médiation pour apprendre quelque chose? Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça nous fait quitter l'époque de l'EAO, de l'apprentissage assisté par ordinateur, qu'on a beaucoup connu dans les années 80, le courant du ludo-éducatif avec des produits comme par exemple Adibou, où on avait surtout la thématique du jeu qui était convoquée, c'est-à-dire on faisait croire que c'était du jeu, mais c'était finalement juste une thématique et ce n'était pas réellement du jeu qui était associé derrière. Alors l'exemple type, c'est on fait une opération à trous, c'est un exercice de maths, et en fait, si on a bien répondu, on a le petit avatar, le petit Adibou ou le Mickey ou ce qu'on veut, qui va nous féliciter parce qu'on a réussi l'exercice et nous proposer éventuellement un petit jeu intermédiaire ou récréatif avant de repartir pour un nouvel exercice. Donc on voit bien que le jeu est là utilisé comme carotte, mais pas du tout impliqué dans le processus d'apprentissage lui-même. Il est parallèle en fait.
Alors j'aimerais revenir un petit peu sur tes activités de recherche. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques sujets de recherche que tu as menés ou que tu es en train de mener ?
Oui. Alors il y a effectivement plusieurs travaux de recherche qui sont menés. Donc là, avec l'équipe de l'INESP de Lille, avec une équipe composée de plusieurs personnes qui sont des chercheurs, des enseignants et des statisticiens, alors que sont Katel Bellegarde, qui est maître de conférence aujourd'hui, Julie Boyaval, qui est enseignante et puis qui est aussi responsable, référente éducative dans le domaine du numérique, Vincent Urez, qui travaille sur l'Académie de Dijon. On a également Dorothée Allier Van Uxem au sein de l'INESP, qui est responsable recherche, Jean-François Condette également, ainsi que la DAN, présidée par Philippe Leclerc. Toutes ces personnes, et j'en oublie, j'oublie par exemple les membres de mon laboratoire de Visu, présidé par Sylvie Merviel, toutes ces personnes nous ont aidés depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui à porter un projet de recherche qui s'est déployé dans une trentaine d'écoles maternelles de la région du Nord, et qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ces enseignants qui œuvrent dans les écoles maternelles. Bah, tout simplement, c'était de déployer un serious game qui était l'apprentissage, l'initiation au codage, décodage et à la conception informatique, mais avec un même jeu de sérieux où on faisait varier en fait les modalités. C'est-à-dire, on propose un même principe de jeu, mais ce qu'on va proposer aux enfants, c'est trois approches différentes pour jouer. La première approche, c'est de jouer avec le corps. La deuxième approche, c'est de jouer avec une tablette. Et la troisième approche, c'est de jouer avec un robot. Un robot qui, en l'occurrence, c'était BlueBot. Et donc, en fait, l'idée, c'était de voir si les modalités qui étaient proposées pouvaient avoir une influence sur les performances. C'est-à-dire, est-ce que le fait de jouer à un jeu sur tablette, jouer à un jeu avec le corps ou jouer à un jeu avec un robot pouvait améliorer ou diminuer les performances des enfants dans leurs apprentissages. Et en fait, là, on a publié deux articles sur le sujet. Ce que ça montre pour le moment, c'est qu'on a la modalité robot qui est visiblement une modalité qui est plutôt performante, mais on obtient de meilleurs scores encore avec des modalités qui sont associées. C'est-à-dire que si on prend par exemple la combinaison robot plus tablette, on obtient de très très bonnes performances, meilleures que le robot tout seul. Et puis, on a été surpris puisqu'on s'attendait à voir la modalité corps être mise en avant. Et en fait, la modalité qui associe le corps et le robot arrive derrière la modalité robot-tablette. Donc tout ça, ça nous questionne, on essaye de comprendre pourquoi, mais en même temps, on est prudent, puisqu'on se rend compte que, par exemple, selon les activités, on a le corps qui, des fois, présente de meilleurs résultats que le robot ou que la tablette. Donc ça dépend vraiment des enfants, ça dépend des contextes et ça dépend des activités. Mais globalement, c'est quand même le robot et la tablette qui donnent pour le moment le meilleur score. Or, ce qui nous a surpris, c'est que la tablette toute seule donne les plus mauvais résultats. Donc on essaie de comprendre pourquoi, en associant le robot et la tablette, on a comme ça un boost au niveau des performances. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'enfant est amené à passer deux fois plus de temps en utilisant une première fois le robot puis la tablette ? Au regard de l'utilisation de seulement la tablette ou seulement le robot, mais ça n'explique pas tout malgré tout. Donc voilà ce qu'on a comme projet de recherche pour commencer. Ensuite, on a un deuxième projet de recherche qui est en lien avec l'utilisation des jeux vidéo existants, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de concevoir des serious games en partant d'une feuille blanche, l'idée c'est de se dire la plupart des enseignants et des enseignantes sont en fait des artisans, des artisanes de l'enseignement. Et je me suis aperçu avec le recul que ces enseignantes et ces enseignants n'aiment pas finalement avoir un dispositif clé en main, n'aiment pas qu'on leur donne un serious game, allez-y, utilisez comme tel. En fait, qu'aiment faire les enseignants et les enseignantes, c'est de trouver par eux-mêmes, en les adaptant à leur propre pédagogie, les jeux qui vont pouvoir être utilisés en classe en fonction de ce qu'ils aiment eux, en fonction de leur goût, de leurs préférences, de leur motivation. Et donc, ce qu'on essaie de mettre en place au sein de l'INESP de Lille, c'est une bibliothèque de jeux vidéo et de jeux de société qui date des années 70 jusqu'à nos jours. Donc là, on a tout un ensemble de titres qui vont de la Magnavox d'Odyssée, que je vous ai évoqué tout à l'heure, jusqu'aux dernières consoles de jeu, la Xbox One, la PlayStation 4, la Switch, en passant par tout un ensemble de machines intermédiaires comme les TO7, les MO5, l'Amstrad, le Commodore 64, les Atari, ou la NES qu'on a évoquée tout à l'heure, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de donner à nos enseignants et nos enseignantes une palette très très large de jeux et de jouets, qui soient numériques, qui soient analogiques, c'est-à-dire jeux de cartes, jeux de plateau, ou hybrides, c'est-à-dire qu'on retrouve à la fois des composantes analogiques et des composantes numériques pour pouvoir mener leurs activités ludopédagogiques en classe. Et ce qu'on va essayer de mettre en place une fois que cette bibliothèque ouvrira ses portes en 2020, c'est de pouvoir conduire des travaux de recherche sur la durée, des études plutôt longitudinales, pour voir comment les pratiques enseignantes sont éventuellement modifiées par le jeu et comment les pratiques qui sont proposées par des enseignants et des enseignantes sont partagées entre enseignants et enseignantes pour s'approprier le jeu et qu'est-ce que ça va nous donner à la sortie. Ça, c'est ce qu'on attend de voir. Et enfin, un dernier travail de recherche qui est mené aussi actuellement sur la réalité virtuelle, qui vise à étudier quel peut être l'impact de cette modalité au regard des modalités écran. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous questionne. Est-ce que le fait d'être dans l'image apporte une plus-value ? C'est une question de société qu'on doit se poser aujourd'hui, sachant que des auteurs comme Serge Tisseron nous mettent en garde sur la problématique de la consommation écran. Donc, ce qu'on veut vérifier, nous, c'est si la réalité virtuelle apporte une bonne valeur ajoutée, dans quel contexte, dans quel cadre, et ensuite pouvoir trouver le bon dosage, c'est-à-dire comment alterner les modalités de manière à ne pas être uniquement connecté sur des écrans, des casques de réalité virtuelle, mais aussi trouver le cas échéant des alternatives pour jouer sans être non plus trop exposé à ces écrans qui ont, selon certains auteurs, aussi des contre-effets sur le développement des enfants.
Et qui sont les personnes ou les institutions qui te commanditent ces recherches ?
Alors, il y a des initiatives qui sont portées effectivement par, d'une part, des entreprises. Dans le cadre de la réalité virtuelle, il s'agit par exemple de la société Immersive Factory qui souhaite étudier l'apport de la réalité virtuelle de manière concrète sur le terrain. Est-ce que la réalité virtuelle est une valeur ajoutée ou est-ce qu'on peut faire la même chose avec un écran traditionnel ou d'autres types d'approches comme un document audiovisuel, par exemple. Ça, c'est donc d'une part des acteurs privés. Ensuite, il y a des acteurs publics. Par exemple, le projet Bluebot qu'on a évoqué tout à l'heure, là, ça vient de l'Académie de Lille, ça vient de l'ESPE de Lille à l'époque, qui souhaitait mener une expérimentation sur la robopédagogie. Et donc là, on a mis ensemble le protocole et on l'a développé donc entre 2016 et cette fin d'année 2019, donc un programme de recherche qui s'étale sur 3 ans, et on espère pouvoir reconduire un nouveau cycle de 3 ans, parce qu'on a plein de choses maintenant qu'on a trouvées et qu'on aimerait approfondir. Et puis après, il y a des initiatives personnelles. Par exemple, la bibliothèque de jeux, ça, c'est quelque chose que porte l'association Ludosciences, dont je suis le président, et dont la vocation est de favoriser la diffusion du jeu vidéo, du serious game, dans tous les marchés ou dans toutes les strates sociétales, dans le but d'acculturer les personnes qui en ont besoin et puis d'offrir une égalité des chances. C'est-à-dire, si on parle de ludopédagogie aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit réservé à une élite, mais on tient à ce que ce soit vraiment partagé par le plus grand nombre. Donc, à partir de là, l'idée de cette bibliothèque qu'on est en train de monter à l'INESP sera d'être partagée, mutualisée avec des acteurs, des partenaires qui souhaitent s'associer à la démarche.
Alors, tu as beaucoup parlé de jeux plutôt numériques. Est-ce qu'il y a une raison à cela ?
Alors, de manière très simple, on a aujourd'hui le jeu vidéo qui est une composante qui est arrivée de manière récente, hein, c'est-à-dire c'est apparu dans les années 70. Donc c'est vrai que ça focalise beaucoup d'attention au niveau des chercheurs aujourd'hui pour savoir un petit peu quels sont les apports du jeu vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu vidéo offre quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un support qui est interactif, avec la possibilité pour les utilisateurs d'avoir un arbitrage automatique. C'est-à-dire que quand on joue à un jeu de société, il faut en général qu'il y ait une personne qui soit garant du bon fonctionnement du jeu. Par exemple, si vous jouez au Monopoly, vous avez quelqu'un qui doit gérer la banque, qui doit gérer les transactions, des achats, des propriétés, de vérifier que les différentes personnes touchent bien leurs sous après avoir passé la case de départ, etc. Dans un jeu vidéo, tout ça, ou dans un jeu numérique, si on a une vision plus large encore, pas forcément avec écran, on a une gestion qui est informatisée de ces arbitrages, et donc ça permet en fait de libérer les utilisateurs de certaines tâches pour les mettre au profit d'autres aspects. Sauf évidemment si la gestion de la banque représente un intérêt pédagogique pour un enseignant ou une enseignante, auquel cas, évidemment, le jeu de société, en l'occurrence le Monopoly, a toute sa place, évidemment. Alors après, on voit aujourd'hui apparaître un phénomène qui nous intéresse beaucoup, ce sont les escape games, et les serious escape games notamment, dont on fait chaque année, depuis 2017, une édition, pour étudier un petit peu ce qui se passe sur le sujet, ce que font les enseignants, les enseignantes et d'autres acteurs privés sur cette thématique-là. Alors l'escape game offre l'avantage de pouvoir mélanger, hybrider toute forme de jeu, que ce soit des jeux de société, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des jeux hybrides, justement, parce que on peut être aussi bien amené à toucher des objets concrets, des cadenas, des fils électriques qu'on doit disposer dans le bon ordre, que des ordinateurs ou des tablettes ou des écrans interactifs ou voire des consoles de jeu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on arrive avec les escape games à marier peut-être le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le côté tangible et les interactions sociales que nous offrent les jeux analogique, les jeux de plateau, les jeux de cartes, puisqu'on est amené à parler, discuter entre personnes. Et puis, ce système d'autoportage que nous offre le jeu numérique, dans le sens où l'arbitrage, l'impartialité est géré de manière automatique. Voilà. Donc, peut-être que le meilleur des deux est regroupé dans les escape games. Les escape games offrent aussi l'avantage de pouvoir s'adapter à tout type de budget. C'est ça qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un escape game en dévalisant des boîtes de jeux de société dans lesquelles on peut récupérer des pions, des dés, des cartes, etc., qu'on peut ensuite modifier à sa guise, tout en associant donc des applications déjà existantes sur tablette qu'on peut aller insérer pour proposer des énigmes aux participants. Voilà, donc il y a plein de facteurs qu'on interroge au travers des escape games. Et d'ailleurs, on a lancé à ce sujet un appel à communication pour une revue qui s'appelle Science du jeu, dont on attend les écrits pour le mois d'avril 2020. Donc, appel à vos auditeurs, s'ils sont intéressés, je les invite à aller voir le site des Sciences du jeu et de regarder donc l'appel à communication numéro 16 dédié aux escape games.
Tout le monde peut participer ?
Tout le monde peut participer dans la mesure où il s'agit quand même d'articles scientifiques. Donc il faut quand même répondre à quelques standards, c'est-à-dire avoir un regard aiguisé. Il ne s'agit pas de mettre en avant des articles commerciaux. Et puis de citer ses sources, de faire référence à des approches théoriques. Et puis pourquoi pas partager ses expériences. Donc tout ça, c'est des choses qui nous intéressent. Mais on a dans l'appel essayé de montrer un panel très très large de possibles. On peut être aussi bien dans les escape games entièrement numériques que entièrement analogiques, voire hybrides. que ce soit des approches récentes ou bien à venir. On est vraiment très hétéroclite dans les demandes.
Alors, quel conseil peux-tu donner aux personnes qui utilisent ou souhaitent utiliser le jeu dans leur activité professionnelle ?
Alors, de manière simple, je dirais pour quelqu'un qui démarre, qu'il vaut mieux partir sur l'idée de détourner des jeux existants. On fait l'économie de devoir se creuser la tête pour faire un jeu qui, au bout du compte, peut ne pas être si amusant que ça. Il existe déjà des tas de jeux qui ont fait leurs preuves, et donc il vaut mieux, à mon avis, partir d'un jeu existant, adapter ce jeu aux besoins utilitaires que l'on vise. On est sûr d'avoir une base qui est déjà bonne. Pour évidemment des personnes qui aiment créer leurs jeux, je ne vais pas leur dire que c'est pas bien. Là, évidemment, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est plutôt pour les personnes qui ont du mal à imaginer comment développer un jeu, comment créer un jeu. On a cette chance aujourd'hui de baigner dans une culture du jeu qui est extrêmement développée dans notre société. Et il est très rare qu'on ne trouve pas un jeu existant qui traite déjà de la thématique qui va nous concerner dans les objectifs utilitaires que l'on vise. Vraiment, les palettes sont extrêmement larges et développées aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de savoir qu'il y a trois temps pédagogiques qu'il convient de respecter. C'est Nicole Tremblay, une chercheuse canadienne, qui nous l'apprend. Trois temps, c'est un temps pour briefer, c'est-à-dire au départ, quelles sont finalement les règles du jeu, mais aussi le contrat didactique ou utilitaire que l'on veut chercher à atteindre par l'utilisation du jeu. Il faut énoncer les choses dès le départ, c'est un contrat qui doit être clair avec les utilisateurs. Bien entendu, en fonction de la personne qui va engager les gens dans l'activité, rien n'empêche de cacher certains détails pour ménager des effets de surprise. On n'est pas obligé de tout dévoiler non plus, sinon on peut tuer l'activité. La deuxième phase, c'est le temps du jeu. On est dans la phase d'animation de l'activité. Donc vraiment, le jeu doit se dérouler comme il convient et les personnes qui gèrent cette activité doivent être le plus aidant possible pour que le jeu se déroule de la meilleure façon possible. C'est-à-dire aller aider les participants lorsqu'ils sont bloqués, résoudre des problèmes techniques, faire en sorte que les interactions sociales se déroulent bien, de débloquer toute situation d'incompréhension entre les joueurs et ce genre de choses. Rien n'empêche évidemment à ce moment-là pour les organisateurs, d'injecter de temps en temps des petites questions qui vont susciter l'interrogation chez les joueurs, mais attention à ne pas être trop envahissant, à ne pas vouloir plaquer à tout prix les dimensions utilitaires à ce stade-là, parce que ça pourrait tuer le jeu. Et enfin, lorsque le jeu est terminé, on rentre dans la troisième phase, qui est le débriefing, et c'est là où vraiment la dimension utilitaire prend tout son essor, tout son sens, puisqu'on va capitaliser sur l'expérience de jeu pour faire le lien, la passerelle, avec les dimensions utilitaires, en se servant des anecdotes qui se sont déroulées durant le jeu, en expliquant le pourquoi du comment de cette activité durant cette phase de débriefing, et ainsi faire le lien avec le vécu durant la partie ludique qu'auront vécu l'ensemble des participants pour les amener à conscientiser ce qu'ils devaient apprendre, à conscientiser finalement ce qu'ils ont été amenés à mobiliser comme savoir-être ou savoir-faire durant l'activité et ainsi valoriser à la fois ce qu'ils savent déjà faire mais aussi peut-être les éclairer sur ce qu'ils viennent d'apprendre. Et tout ça, c'est durant le débriefing qu'il faut l'opérer et pas avant, ou alors vraiment de manière très habile, si on se sent capable de faire des micro-débriefings durant le jeu, c'est possible, mais il faut vraiment être aguerri. Et donc tout ça, ça s'apprend par de la pratique, par des approches théoriques qui sont ensuite distillées dans un deuxième point, et c'est là où justement, une fois qu'on a pratiqué, on prend toute la mesure et l'intérêt finalement de tous ces écrits théoriques que la recherche essaye de distiller à travers les colloques, les conférences ou les revues scientifiques.
Alors avant de terminer notre échange, y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé et que tu aimerais parler, et dont tu aimerais parler ?
Bon, écoute, moi ça me semble déjà être un panel assez exhaustif. La seule chose que je pourrais peut-être rajouter, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup d'interrogations sur peut-être ce qu'on est en train de construire comme société avec le jeu. C'est un aspect réflexif que j'évoque toujours avec les étudiants ou en conférence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le jeu très bien, mais il faut pas perdre de vue ce qu'on est en train de faire avec, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de dessiner comme avenir pour nos enfants, qu'est-ce qu'on cherche à construire avec le jeu. Il faut pas que ce soit quelque chose qui soit de manière construite de manière aveugle, c'est-à-dire qu'il faut finalement savoir à quel dessein on fait ça. Est-ce qu'on a envie que demain tout passe par le jeu? C'est pas sûr. L'intérêt du jeu, c'est aussi paradoxalement de cultiver sa rareté, c'est-à-dire que le jeu, il est intéressant quand c'est pas tous les jours qu'on en fait usage. Et comme le disait Marcel Lebrun, différentes approches pédagogiques, que ce soit les cours magistraux, que ce soit les pédagogies actives, que ce soit l'utilisation de la musique, ou même la possibilité de cultiver un potager ou de faire cultiver un potager par ses élèves comme le faisait un enseignant que j'avais en CE2, sont des approches qui sont très intéressantes et très complémentaires. Le jeu doit être vu comme l'un des possibles, et certainement pas comme étant celui qui doit tout supplanter, parce qu'au bout d'un moment, bah, ça sera comme le chocolat. Quand on mange un ou deux carrés, on trouve ça très bon. Quand on a mangé 10 tablettes, on finit par s'écœurer. Donc il ne faut pas arriver à cet état d'écœurement. Il faut que ce soit vraiment utilisé de manière parcimonieuse, et puis réfléchir aux conséquences de ce qu'on met en œuvre quand on met en place des activités ludopédagogiques ou qu'on mobilise le jeu. Voilà, parce qu'il peut y avoir aussi des dérives, malheureusement.
Alors finalement, si on souhaite en savoir plus sur toi ou sur les travaux que tu mènes autour du jeu, où est-ce qu'on peut envoyer les gens, où est-ce qu'on peut s'informer ?
Alors, il y a d'abord le site de Ludosciences, tout simplement, sur lequel on met de temps en temps un petit post, un petit blog sur l'actualité. On partage tous nos écrits scientifiques, que ce soit ceux de Damien Djaouti ou d'Olivier Rampenou, qui sont les deux autres membres fondateurs de l'association. On les partage pour les diffuser dans tous les réseaux, auprès de tous ceux qui peuvent être intéressés de manière gratuite, évidemment, avec l'idée qu'on puisse faire de l'open innovation. C'est vraiment partager la recherche. On n'est pas du tout dans une logique de protectionnisme. Et puis après, il y a aussi ma page LinkedIn, sur laquelle on peut aussi me trouver assez facilement, pour échanger, discuter et évidemment répondre aux questions éventuelles que se poseraient vos auditeurs.
Ben, merci beaucoup, Julien Alvarez. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi.
C'est réciproque.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.